pas vous t'emprunter, frère. Plus vite.
Mais là, tu perds 5 kilos.
Moi, je fais 30 kilos.
Non, j'ai dit t'as perdu 20 kilos.
Oui, mais moi, 30 kilos.
Je mange. Le matin, je mange des céréales au chocolat.
C'est lui, il crie. Arrêtez.
Est-ce que je te remets 5 ans en arrière à ton arrivée?
Oui, 5 ans en arrière. 5 ans, frère, 5 ans.
Lucas, il y a ton éducatrice là, qui dit 5 ans en arrière à ton arrivée. Ça fait 5 ans que t'es là?
Oui.
Et là, tu rentres du collège ce matin?
Non.
Tu viens d'où, là, avec ton groupe?
Je viens du cinéma.
Ah, vous êtes allé au ciné?
Ouais.
Un mardi matin, comme ça?
Oui, parce que notre prof, elle est pas là, elle a eu un problème au genou. Donc, voilà.
Et ciné, vous êtes allé voir quoi?
Jurassic World.
Ah,
Jurassic World. Les dinosaures.
Ouais. Et puis, c'était bien?
Ouais, très bien.
Qu'est-ce que tu retiens du film?
Qu'il y avait beaucoup de bastons. Que c'était la technologie, que c'était un peu dur à contrôler. Et qu'il y avait beaucoup d'action, et du coup, c'était génial.
Quand tu dis beaucoup de bastons, ça m'amène à une question sur Beauvallon. Mmh. La baston ici, c'est non?
C'est non, mais des fois, on est un peu obligé de le faire. Et des fois, on enfreint les règles, on le fait.
Toi, tu t'es arrivé déjà?
De me battre? Ouais, une fois. Pas plus, enfin ouais.
C'était quoi le problème?
Parce qu'on m'a insulté et on n'a pas insulté les gens. Enfin, en fait, il y a des personnes qui cherchent, puis après, ils s'étonnent ou elles s'étonnent qu'on leur retourne la balle. Du coup, je suis passée à la violence. Mais après, sinon, je suis pas une fille à me battre. Faut vraiment, vraiment, vraiment me chercher pour me battre. Des fois, je vais être un peu violente, me donner des petits coups, mais le mode de ma scarification, c'est que je frappe pas les autres, mais du coup, je me frappe moi-même.
Tu retournes la violence contre toi.
Voilà, c'est ça. Au lieu de frapper l'autre, parce que j'ai peur de lui faire trop mal. Parce que j'ai beaucoup de force dans les bras, et du coup, des fois, je contrôle pas mes gestes. Je suis très hyperactive. Je parle très fort. Mais,
ça dépend, t'es capable de moduler, là, c'est parfait.
Oui.
Pour la radio.
Ouais, je suis capable de moduler, oui. Mais par contre, je parle très fort. On me dit souvent de baisser le ton, parce que des fois, je suis excitée. Mais j'ai un mauvais caractère. Un très, très mauvais caractère. Mais sinon, au fond, j'ai un bon cœur. J'ai de la place pour tout le monde.
Tu comprends pourquoi t'es là?
Non. Enfin, j'ai un mauvais comportement, des fois. Mais sinon... peut-être des fois je peux clasher tout le monde. Mais quand je clash, ça veut dire que je suis pas bien. Genre, je le fais pas pour plaisir de blesser l'autre. Et en fait, mon truc, ma difficulté, c'est que je peux dire un truc à l'autre, mais je vois pas que ça le blesse. Donc ma parole, je la contrôle pas trop. Je sais pas ce qu'elle vaut pour l'autre, quand il se reçoit ça à la figure. Je vais m'excuser le premier truc que je fais. Après, ça m'angoisse parce que je dors pas de la nuit. Mais ouais.
Est-ce que tu prends, dans différents moments de la vie de Beauvallon, souvent la parole?
Oui, je prends très souvent la parole en assemblée. Quand j'ai des choses à dire qui ne me plaisent pas, je le dis clairement, même si ça a fait mal.
Et en assemblée, tu fais aussi des propositions?
Oui, j'ai fait une proposition de danse entre midi et deux. Donc, parce que je trouve qu'il y avait beaucoup trop d'activités pour les garçons, parce qu'il y a le foot et tout. Mais moi, je joue au foot. Chez moi, quand je suis avec mes potes, Léo, Ryan, je joue au foot. Mais en fait, ici, c'est le truc, c'est qu'en fait, les garçons, ils se croient que non, que les filles, elles vont perdre. Du coup, ils se croient un petit peu pour Kylian Mbappé qui vont gagner 10 000 euros ou 10 millions d'euros, alors qu'on n'est pas du tout à la Coupe du Monde, qu'on est en France, qu'on est sur un stade et qu'ils ne savent pas intégrer les autres pour jouer.
Donc là, tu as fait cette proposition de cours de danse entre midi et deux. Ça a donné quoi?
Ça a donné qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés. Il y a mon copain Gilan, il y a ma pote Carla. Soit on crée des chorés, soit on danse. Là, en ce moment, je suis en train de créer une choré avec Gilan, de hip-hop. Viens, Gilan.
Moi, j'ai fait du hip-hop pendant 6 ans, donc j'ai toutes les bonnes manières pour faire du hip-hop. Et du coup, avec Cassandre, on fait... une danse.
Une dernière question. Je fais ce reportage pour une radio temporaire qui va émettre sur Dieulefi début juillet pendant une manifestation qui s'appellera Concertina, où on va réfléchir sur les enfermements. Donc tous les lieux où les gens sont privés de liberté. Ah, non, prison, mais... hôpitaux psychiatriques fermés.
Ah non, j'y suis déjà allé. J'y suis déjà allé, c'est... je comprends.
Tu es allé où ?
À l'hôpital psychiatrique. Je comprends ce que c'est.
T'étais sous clé ?
Oui, j'étais enfermée et j'étais attachée à une chaise. Mais oui, c'était vraiment pas très rigolo. Ça m'est arrivé, donc c'était en janvier, donc cette année. Parce que je m'étais trop scarifiée. Et donc c'était le week-end. Et j'arrivais plus à respirer, j'arrivais plus à me dire, à me prendre le positif au lieu du négatif. J'ai pris que négatif et j'ai failli, ben voilà. Et du coup, maman, elle a appelé les urgences. Et du coup, ben, j'y suis partie. Et j'y suis revenue le mardi à l'ITEP. Du coup, ça m'a fait une coupure, mais c'était vraiment pas rigolo. Mais moi, je trouve qu'à Beauvallon, on est enfermés parce que les éducs, franchement, même si on passe à radio, je vais le dire, mais les éducs, ils nous comprennent pas. Genre, t'as...
Je peux pas dire qu'on est enfermé. On vit dans un terrain assez vraiment... c'est vraiment, vraiment grand. On peut pas se dire qu'on est enfermé dans cette école. T'as une liberté...
Oui, mais c'est pas comme si t'étais au collège. Tu sors de cours, tu vas voir tes copains. Là, tu sors de cours, tu goûtes avec les autres. T'es tout le temps avec les mêmes personnes. T'es sur le groupe. Des fois, t'as même pas le droit de sortir parce qu'il faut que t'attendes le comportement des autres. Si, par exemple, il y en a une qui s'est mal comportée, t'es privé à sa place, donc tu peux pas sortir.
Mais après, dans tous les enfermements, c'est comme ça, style les prisons. Pour ceux qui sont placés, il y a aussi les foyers, les lieux de vie où c'est vraiment enfermé. Donc,
t'as connu ça, toi ?
Bah, moi, je le suis moi-même placé, donc oui, je sais ce que ça fait d'être enfermé dans des lieux de vie ou dans des foyers.
Où il y a la clé dans la poche de l'éduc ?
Oui, au cas où que genre il se passe des choses, on va nous dire tu restes sur le terrain, mais t'as pas le droit genre d'aller. Tu peux pas descendre en ville, non. Tu dois rester enfermé dans ton lieu de vie.
Oui, je dis pas qu'on est enfermé, mais je dis quand même, on est d'accord, il y a des horaires. Et aussi, Beauvallon, j'ai pas aimé. Je n'aime pas Beauvallon, même si je passe des bons moments. Je fais genre que j'aime Beauvallon, mais j'aime pas. Les éducs, ils nous comprennent pas. Moi, je me sens un petit peu seule sur Terre. Du coup, c'est les éducs qui sont pas là pour m'aider. Je sais pas comment je vais avancer, où je vais aller. Ce que je vais devenir dans mon avenir, si j'aurai un métier, si j'aurai un travail, si j'aurai un amoureux.
Ça t'angoisse.
Ouais, si j'aurai un amoureux, si j'aurai un travail.
C'est l'angoisse aussi sur. Quand on est enfermé, ça nous dégage des choses dans le crâne qui nous dit il faudrait qu'on s'améliore et on se dit que sortir d'un enfermement, c'est de s'en dégager en fait.
Oui.
Sinon, on ne peut pas en sortir. Donc il faut vraiment faire ça.
Et l'équilibre ici entre les règles librement consenties ou disons potentiellement discutables et l'absence de barrières, etc. C'est un équilibre qui te paraît intéressant ?
Ben, il n'y a pas de barrières, donc c'est ça qui est bien, on a beaucoup de liberté. Il y a des règles, certes, que
si,
je pense qu'on n'aime pas. Oui,
on
a des barrières, mais c'est pas si. Des barrières hyper grandes.
Oui, non, mais c'est pas des barrières. C'est juste, tu dépasses la limite, t'es 3 jours à la main, par exemple.
C'est un petit peu un enfermement, parce que tu lances un caillou, tu peux le lancer dehors, en dehors des limites ou des
en
gens, tu lances pas sur les gens. Mais si tu le lances comme ça, on va te dire t'es 3 jours.
C'est... Ben voilà, c'est pour ça que je te dis qu'on est enfermé. Regarde, tu dépasses la limite, t'es 3 jours. Tu prends quelques potes avec toi, tu vas te promener. Les éducs, ils te disent, à cette heure-ci, tu dois rentrer parce qu'après, tu vas sous la douche. Non, c'est... Tu dépasses la limite, t'es 3 jours. Bim, ça tombe.
Noah, est-ce que tu veux lire, s'il te plaît? Allez, à toi de... Maintenant, à toi de voir. Okay. Allez.
Oh. Au printemps... 1572. Il reçoit donc avec soulagement la première permission royale d'affréter de navire pour aller faire la moisson. C'est quoi la moisson ?
Là, c'est la récolte.
Okay. De l'or là-bas. Au Nouveau Monde, but de l'expédition, le port de nombreuses de Dio, Mexique.
On a quitté les collégiens de Beauvallon pour aller vers les enfants de la section primaire. Après ce temps de lecture, les élèves acceptent de nous expliquer les règles et les sanctions en vigueur à Beauvallon et la façon dont ils les vivent.
C'était bien quand même.
Genre, si on sort des limites, ben, on est 3 jours à la main. C'est-à-dire on est à la main de l'adulte pendant 3 jours.
Sortir des limites, ça veut dire quoi?
Par exemple, on a des limites, on ne peut pas sortir de Beauvallon. Par exemple, il y a un grillage et si tu vas de l'autre côté, bah, tu es 3 jours à la main.
Ben, je ne l'ai pas vu ce grillage, il est loin?
Bah, en fait, c'est la nature, genre, il n'y a pas de grillage.
C'est toi qui l'imagines, tu te le mets ton grillage?
Ouais, voilà, c'est ça.
Et toi, tu as déjà franchi les limites?
Non. Jamais. Mais j'ai été à la main 3 jours au camp d'été.
Pourquoi t'as été 3 jours à la main?
Enfin, je sais plus pourquoi j'ai été 3 jours.
T'as oublié?
Ouais.
Mais tu peux me raconter comment ça s'est passé? T'as fait quoi pendant 3 jours?
Bah, j'étais à la main de l'adulte et je mangeais avec les adultes. Même quand on allait se balader, j'étais à la main de l'adulte.
À la main, ça veut dire que tu lui tiens la main?
Oui, c'est ça.
Tout le temps? T'as pas la main moite au bout d'un moment?
Si, des fois, je suis à la main. Mais ouais, tout le temps, c'est à la main. Pendant 3 jours.
Et pendant ces 3 jours, tu penses à quoi?
Bah, je peux pas jouer avec mes copains. Et je peux pas m'amuser tout seul aussi.
Donc c'est une sanction?
Ouais, c'est ça. C'est une sanction.
Et t'en penses quoi de cette sanction, toi?
Bah, que c'est bien, parce que ça permet de réfléchir. Parce qu'il y en a, ils recommencent derrière, du coup.
Et toi, ça t'est arrivé aussi? Tu t'appelles Enzo, hein, également?
Oui, ça m'a beaucoup arrivé.
Beaucoup arrivé? T'as envie d'en parler?
Non.
Okay. Je vais me déplacer. Merci, hein, à vous deux. C'est comment tu te présentes?
Steven. C'est moi, bien. En fait, j'ai fugué d'ici, le soir, et j'ai été plus qu'à la main. Et j'étais une semaine à la main, une semaine à la vue.
Une semaine à la main, une semaine à la vue. Alors, fuguer, ça veut dire quoi? Parce qu'à partir de quand on est dehors de l'école?
Ça veut dire partir d'ici, s'en aller, parce que quand t'arrives ici, t'as pas vraiment envie d'être ici. T'as pas envie d'être dans un ITEP spécialisé.
T'as envie d'être où?
Bah, d'être à ta maison. Ou, je sais pas, d'être dans une école, dans ton école où t'étais avant.
T'étais là depuis combien de temps quand t'es parti?
1 an et demi.
Et là, maintenant, ça fait combien de temps que t'es à Beauvallon?
5 ans.
T'as pas refugué?
Non.
Alors toi, t'as connu le fait d'être à la main, pas pendant 3 jours, pendant une semaine?
5 jours, c'est une semaine, ici. Puisque c'est jusqu'au vendredi. Vendredi midi, tu pars, et le dimanche, tu reviens.
Et t'as quel souvenir de ces 5 jours, toi?
Bah, déjà, en plus, on avait un camp. Du coup, je voyais les autres, ils étaient dans la grande piscine et tout. Il y avait plein de toboggans et moi, j'étais dans le petit bassin. Moi, je suis pas un petit, moi. j'ai fini ma jour à la main, quoi. Et après, j'ai fait l'autre sanction. Être à la vue. À la vue, c'est l'adulte qui doit te voir obligatoirement. S'il ne te voit pas, bah, tu vas être encore plus à la vue.
Et depuis 3 ans et demi, est-ce que tu as de nouveau été sanctionné?
Oui, j'ai déjà été sanctionné plusieurs fois pour les 3 jours, mais pas pour des choses graves. Comme un jour, en fait, il y avait les adultes. Et j'ai planté un bâton. Et moi, je pensais que le bâton, il n'allait pas partir. Du coup, bah, j'ai tapé dedans et il est arrivé vers les adultes.
Alors ça, ça vient contrevenir une autre règle, je crois, qui concerne le lancer de toutes sortes de choses. Hein. C'est quoi cette règle?
Tout ce qu'on peut lancer ou quoi, eh ben, c'est interdit. Et si on les lance, ben, on est 3 jours à la main de l'adulte.
Qui c'est qui a décidé ça, à ton avis?
C'est Patrick, le chef de l'école, du coup. Qui a mis ses règles et voilà.
Et si toi, tu la trouves injuste, cette règle, tu peux y faire quelque chose? Tu peux la changer ou proposer de la changer?
Non.
Mais non, on peut pas.
On peut changer, hein. On peut changer, mais en demandant à l'Assemblée, il faut faire tout ça et tout. Mais ça peut être changé.
Il faut des arguments pour essayer de changer les sanctions.
Et il disait, ça peut se passer au cours de l'Assemblée. Qu'est-ce que c'est l'Assemblée?
C'est où tout le monde se réunit et parle des choses qui s'est passé la semaine.
Ça a lieu quand?
Lundi soir.
Toi, t'as déjà fait des propositions à l'Assemblée, par exemple?
Non.
Moi, j'ai demandé des matchs enfants contre adultes.
En quoi?
En foot. On est beaucoup foot à l'ITEP. Et aussi, on a un poulailler, mais là, c'est un projet que je suis en train de faire. Mais il faut que j'aille voir un sous-directeur pour lui demander si le poulailler pour après mettre des poules.
Ça, par exemple, c'est une proposition qui pourrait être discutée en assemblée, la création d'un poulailler.
Oui. Oui. Quoi qu'il en soit, ici, on est libre. On est libre, on fait des activités. Mais en fait, moi, au début de l'année, j'aimais pas ici. J'aimais pas où j'étais. Mais après, quand tu commences à t'habituer, tu commences à aimer. Et moi, je veux rester ici encore quelques années. Puisque ici, t'es libre, tu fais des activités, t'as sport, t'as musique, t'as plein de choses.
Serena, il y a longtemps que tu es à Beauvallon.
J'attaque ma quatrième.
Et c'est ici que tu t'es mise à la musique?
Non, c'est avec ma marraine. Elle s'appelle Corinne. J'ai commencé à faire du piano à 6 ans.
Et qu'est-ce que ça représente, la musique, pour toi?
Je sais pas comment l'exprimer. C'est quelque chose que j'aime bien.
Tu en écoutes beaucoup?
J'écoute sur mon téléphone et je les reproduis au piano.
Et ici, à Beauvallon, tu te sens comment?
Bien. C'est une belle école, je trouve.
Est-ce que tu as eu affaire à la question des règles ici, à Beauvallon?
Il y a une fois.
Tu as été à la main, comme on dit, pendant 3 jours?
Oui. Beaucoup de fois.
Ah, beaucoup de fois. Et tu vis ça comment?
Je vis ça comme une prison, quand on est 3 jours à la main. Parce qu'on est enfermé dans la chambre et on mange seul dans la chambre.
Je croyais que vous mangiez avec les adultes. Tu manges seul dans ta chambre.
Et quand on est 3 jours à la main, c'est ça la punition.
Tu me rejoueras un autre morceau?
Oui.
Bernard Delpal, merci de me recevoir dans votre maison des Rouvières, à Diolfi. Vous avez écrit il y a quelques années et fait éditer l'album de Beauvallon qui raconte l'histoire de l'école depuis sa création jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale comprise. Cette école, elle est créée en 1929 à Diolfi par une diolfitoise, mais on peut dire qu'elle a été conçue à Genève. Qu'est-ce que représente Genève dans la jeunesse de Beauvallon, selon vous?
Vous avez raison, vous allez droit au but. Effectivement, l'école de Beauvallon est en quelque sorte une fille de l'Institut Jean-Jacques Rousseau de Genève, qui avait été fondée en même temps, disons pour simplifier, en même temps que la Première Guerre mondiale. On entre dans cet entre-deux-guerres qui correspond à l'apogée des écoles nouvelles. Autrement dit, Beauvallon est fondé à une époque où il y a une poussée en faveur de l'école nouvelle, une forte demande et une forte réussite également.
En quelques mots, qu'est-ce que c'est que l'école nouvelle ? En quoi elle est nouvelle ?
Déjà avant la Grande Guerre, il y avait une interrogation sur la manière dont, en Europe, d'un bout à l'autre, on éduquait les enfants, d'abord les garçons et puis un peu moins les filles. Et ce qui était redouté, c'est que cette éducation, d'une manière générale, formatait les enfants et dans un sens plutôt nationaliste, puisque le XIXe siècle, c'est le siècle des nations et des nationalismes. Et hélas, la Grande Guerre a donné et ô combien raison à tous ceux qui déploraient cette forme d'éducation tournée vers le nationalisme, la domination, formait des esprits obéissants, fort peu critiques et fort peu capables de se débrouiller tout seul. Alors c'est en réaction contre ça qu'un mouvement puissant est né, d'un bout à l'autre de l'Europe, en Grande-Bretagne, avec plus tard Libres Enfants de Summerhill, et jusque à la Russie incluse, puisqu'il y a eu également, même si c'est difficile pour nous de concevoir qu'il y ait eu des renouveaux psychopédagogiques à la période stalinienne, néanmoins il y a eu une réflexion. Et alors Genève s'est affirmée peut-être à cause de la neutralité suisse, qui avait été respectée pendant la guerre en plus. Genève s'est affirmée un peu comme un chef-lieu. C'est Genève qui distribue les labels. Ça, c'est une école nouvelle. Ça, non. Celle-là, elle ne mérite pas le label. Et Beauvallon, indiscutablement, a bénéficié, d'abord au moment de la création, des recommandations des professeurs, des formateurs, des enseignants qui allaient devenir les maîtres de l'école nouvelle. Et puis, en 1934, dans un périodique qui est distribué en quatre langues dans toute l'Europe, Beauvallon apparaît comme l'école nouvelle de Diolfi, label extrêmement important. À partir de 1934, Diolfi a une notoriété hors de proportion avec sa petite taille.
Marguerite Soubéran, la fondatrice, quelle est sa synthèse de l'école nouvelle ? Parce que l'école nouvelle, c'est des courants, c'est assez divers. Vous parliez de ses origines de différents pays d'Europe. Les quelques valeurs qu'elle retient, elle, des enseignements de Claparède, Piaget et autres.
Alors, Claparède, Ferrière avant Piaget, Piaget après, à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, indiscutablement, il y a des liens très profonds entre Marguerite Soubéran et Jean Piaget. Je dirais que leur tronc commun, c'est Rousseau, c'est l'Émile de Jean-Jacques Rousseau, qui affirme quelque chose qui est absolument révolutionnaire encore aujourd'hui, c'est que le maître doit apprendre de l'élève. Ce n'est pas l'élève qui apprend du maître, c'est le maître qui apprend de l'élève. Il doit se mettre en quelque sorte à l'école de son élève. Ça, c'est le premier principe rousseauiste qui traverse toute l'œuvre de Ferrière et de Claparède et qui est transmis, bien entendu, à Marguerite Soubéran, qui est une disciple active, fondatrice, mais une disciple, elle se revendique comme disciple de Ferrière et de Claparède. Elle a une sorte, pas une dévotion, mais un grand respect pour eux. Et puis, deuxième grand principe, qui, hélas, reste un principe actif aujourd'hui, ce n'est pas à l'enfant de s'adapter à l'école, c'est l'école qui doit s'adapter à l'enfant. Voilà les deux principes issus de Rousseau qui, via les grands maîtres de l'Institut Jean-Jacques Rousseau de Genève, vont être transmis pour devenir actifs à Marguerite Soubéran.
Donc l'enfant au centre, ça c'est la valeur cardinale, et puis cette école, elle est construite et elle sera modifiée au fil du temps, et encore aujourd'hui, sans mur, sans clôture, sans portail. Alors, quel est selon vous, Bernard Delpalle, le sens de cette particularité architecturale pour une école destinée à des enfants dits en difficulté, ou difficile, ou caractériel, comme on disait à l'époque, et qu'on avait plutôt tendance à mettre sous clé?
Oui, alors, quand on arrive à Beauvallon, on est frappé par une sorte d'incongruité de cette architecture dans le pays de Dromois, là, à la limite du Dauphiné et de la Provence. Qu'est-ce que ça vient faire là? En fait, le bâtiment, dans son architecture, dans son principe, dans son organisation, est issu d'une école modèle que Marguerite Soubéran a beaucoup fréquentée près de Lausanne et qui a inspiré les constructeurs. Et ces constructeurs, dans l'été 1929-1930, ce sont les enseignants, les proches, les familles et les enfants eux-mêmes. Tout le monde a mis la main à la pâte. On a des photos très très émouvante. On voit les enfants, des petites filles tirer des briques, tirer des sacs, etc. Autrement dit, en plein pays drômois, on a construit une école inspirée des principes de l'école nouvelle de la Suisse romande, de Lausanne, entre Lausanne et Genève. Et elle est implantée ici comme un lieu où on va faire vivre les principes issus de l'Institut Jean-Jacques Rousseau. Et un de ses premiers principes, c'est que au moment des assemblées où se joue l'avenir de l'école, une voix d'un enfant pèse aussi lourd qu'une voix d'adulte. Autrement dit, l'enfant, le plus tôt possible, reçoit un apprentissage social qui lui permet d'être autonome par rapport à l'adulte. Il existe une discipline chez Jean-Jacques Rousseau. Il existe une discipline chez Ferrière, hein, les fameux 30 points qui ont été la charte de l'école nouvelle d'un bout à l'autre de l'Europe. Eh bien, dans ces 30 points, il y a 5 ou 6 points, je cite de mémoire, qui concernent la discipline. On commet des fautes, et puis eh bien, ça a un coût. Sauf que, c'est pas l'adulte qui punit l'enfant. C'est l'enfant qui confronte sa conduite à un règlement qu'il a librement accepté, un contrat en quelque sorte qu'il signe avec le monde adulte, mais également avec lui-même. Et quand il a rupture de ce contrat, l'enfant est conduit à réparer la déchirure qu'il a opérée lui-même. C'est une discipline qui n'est pas imposée par le monde adulte, c'est une discipline qui est partagée par la communauté des enfants et des adultes. Ça ne veut pas dire que les adultes ne jouent pas un rôle, bien sûr, mais les autres enfants aussi. Quand un enfant a commis une faute, les autres surveillent sa réadaptation. Il est temporairement, non pas exclu de la communauté, mais un peu marginalisé, tenu en observation. Et quand on juge qu'il peut revenir dans la communauté, à ce moment-là, on efface tout et on recommence. Hein, on remet le compteur à zéro. Mais l'enfant est toujours l'acteur de sa réparation disciplinaire.
Donc, en fait, aucune raison, au contraire, de l'enfermer, de le contraindre avec des moyens qui seraient extérieurs à lui. C'est révolutionnaire, ça, pour traiter, entre guillemets, de la déviance, de l'inadaptation, voire de la délinquance.
Oui, quand j'ai commencé à fréquenter l'école Jean-Jacques Rousseau d'aujourd'hui, la contemporaine, j'ai été frappé par un récit qui m'a été fait sur cette aptitude de l'école et de l'enfant à s'auto-former, à repérer les moments où, malheureusement, on a commis une faute et où il faut réparer. Ce qu'on m'a raconté, c'est l'histoire du permis de couteau. Ça a été introduit dans les années 1990, donc fin du XXe siècle, et c'est toujours en usage aujourd'hui. Beaucoup des enfants qui, aujourd'hui, arrivent à l'école, en ce sens, ils sont un petit peu différents des enfants qui arrivent à l'école dans les années 30-40, mais beaucoup d'enfants qui arrivent aujourd'hui à l'école sont des enfants qui sont en rupture avec les institutions. La punition, l'école, les punitions de samedi, etc. Ils connaissent, hein, ils ont beaucoup fréquenté, ça n'a pas donné grand-chose. Et ces enfants ont malheureusement, parce qu'ils sont en rupture avec les institutions, et c'est des ruptures en cascade, deviennent, et c'est pas une grande surprise pour nous adultes, deviennent des enfants violents. Et la violence s'exprime par l'usage du couteau. Beaucoup de ces enfants viennent de régions suburbaines un petit peu difficiles autour de Valence, le quartier de l'Europe, par exemple. Bon, ben le couteau est en usage parce que il est au cœur des rapports sociaux de violence. Quand ils arrivent à l'école, ils ont un couteau. Or, l'école ne dit pas « on te confisque ton couteau ». On dit « voilà, ici, les enfants qui ont un couteau, qu'ils ont obtenu un permis de couteau ». C'est un petit peu comme le permis de conduire, avec un permis à point en quelque sorte. C'est que si ce couteau sert à un mauvais usage, tu perds des points. Et puis, si un jour tu vas trop loin, tu perds ton permis de couteau. Alors, à ce moment-là, le couteau, tu le remets à celui ou celle qui est chargé de la surveillance, de la conservation, et puis tu vas pouvoir regagner tes points et retrouver ton couteau. Autrement dit, le couteau, c'est pas l'abomination de la désolation, c'est simplement un moyen de construction de l'enfant par rapport à la société qui l'entoure. Il peut déchirer son contrat, mais il peut aussi réparer son contrat. Le couteau devient un instrument d'éducation. C'est pas du tout un instrument de peur, de violence. Au contraire, on aboutit à un contrôle de soi. Et quand l'enfant retrouve son couteau, il y a une sorte, pas de fête, mais c'est dit, Jean-Marc, on lui a rendu, il a retrouvé son permis de couteau. Ah, ben ça, c'est bien. Il a marqué des points, voilà. C'est un motif de satisfaction. Voilà comment les murs sont inutiles dans la mesure où tout se joue
dans l'entre-soi, dans le fonctionnement à l'intérieur de la communauté, qui est une communauté vivante, et pas une communauté qui punit, qui exile, non, une communauté qui aide à la réparation.
J'avais prévu d'installer un petit truc pour ma chambre.
Eh ben oui, allez, d'accord.
T'as besoin d'un modèle ? Ouais, ça serait quand même mieux. Tu me trouves le modèle sur l'ordinateur ? Tu sais faire ? Oui. Allez, c'est vraiment galère ce truc là. Heureusement qu'on a les aides Google.
Toi, c'est quoi les matières que tu apprécies le plus, que tu aimes le plus ?
C'est les mathématiques et un petit peu le dessin.
Donc là, le dessin, tu es un peu dans ton élément. Tu es en train de chercher quoi sur l'ordinateur ?
La Delta Force logo. C'est pour ma chambre, en fait, que je veux prendre ça.
C'est ça, la Delta Force ? Oui, Alliance c'est, Military ?
C'est une puissance de l'armée américaine.
Et le symbole, c'est donc un cercle avec au centre un couteau qui transperce, qui découpe un triangle en forme d'éclair.
C'est ça. C'est un petit peu bizarre, mais c'est ça.
Il me fait penser au couteau de Beauvallon. Il y a un couteau ici qu'on peut obtenir.
Oui, on a un permis couteau.
Toi, tu as un couteau ?
Non, je vais bientôt le passer.
Tu vas demander à avoir un couteau ?
C'est ça.
Comment tu vas faire ?
Bah, en fait, on est observé une semaine sur le groupe.
Et le groupe, c'est combien de personnes dans ton groupe ?
Ça dépend. On est 11 des fois et il y en a qui partent le mardi. Du coup, des fois, on est un peu moins.
Okay. Mais enfin, c'est des gars et des filles qui te connaissent bien.
C'est ça. J'ai déjà demandé au groupe. Si on me dit que oui, je peux, la semaine prochaine, je vais demander en assemblée pour qu'on m'observe une semaine. Et la semaine prochaine, si ça va bien, bah, je vais pouvoir l'avoir. Mais on peut le perdre. Si on fait beaucoup de bêtises après, on peut le perdre.
Donc ça veut dire que si tu l'as, d'abord, si le groupe dit unanimement, hein, je crois que c'est ça, il ne faut pas qu'il y en ait un ou une qui dise non. Hein.
C'est ça.
S'ils disent oui, ensuite tu vas devant l'Assemblée. Là, c'est une autre paire de manches. Il y a combien de personnes dans l'Assemblée ?
Oh bah... On est 70 quand on est toute l'assemblée, quand il y a les groupes du haut, les groupes du bas.
Et il y a les adultes aussi qui participent ou pas ?
Oui, il y a les adultes aussi qui participent.
Donc ça fait sacrément du monde. Il suffit qu'il y ait une personne qui doute de quoi en fait ? Qu'est-ce que tu dois respecter comme condition ?
Je dois être ordonnée, donc bien ranger ma chambre, faire mes ménages et tout. Je ne dois pas dégrader, donc pas casser, normal. Et je ne dois pas taper. Ni verbalement, ni physiquement.
Et ça, c'est des règles qui t'a fallu du temps pour arriver à respecter ?
Quelques années. Ça fait 8 ans que je suis ici. Là, j'attaque ma 8e. Donc, bientôt, ça veut dire que je vais avoir 9 ans ici.
Et tu as quel âge aujourd'hui ?
11 ans.
D'accord. Donc, en fait, là, tu te sens mûr pour faire cette fameuse demande de permis de couteau.
C'est ça.
D'accord. Et t'es confiant ou tu t'as un peu les chocottes ?
Bah, je l'ai déjà perdu une fois parce que j'avais fait une violence à la fin de la semaine. Je l'aurais pas fait, je l'aurais déjà.
D'accord.
Je l'aurais.
Tu l'as eu en main ce sacré
non.
couteau, non ?
Non, j'ai fait une bêtise, du coup je l'ai pas eu.
Et cette fois ?
Je pense que je vais pas l'avoir parce que je suis pas assez confiant pour moi.
Tu doutes.
Plutôt. Et je peux demander après.
Je comprends. La nature, justement, qu'est-ce que ça représente dans ta vie à Beauvallon ? C'est important ? Vous êtes souvent dehors ?
Bah, quand il pleut pas, oui, on est beaucoup, beaucoup dehors. On profite au maximum de la nature, parce que c'est ça qui nous fait vivre.
Qu'est-ce qui se passe dehors dans la nature ? Quel genre d'activité ?
Bah, beaucoup de choses. On a par exemple, à Noël, on a la coupe du sapin. Les 20 plus anciens qui commencent à couper l'arbre, 10 coups de hache chacun, dont j'ai participé, parce qu'en même temps je suis là depuis beaucoup d'années. Après, il y a beaucoup de gens qui vont y participer. Et s'il y a des parents qui m'écoutent, bah... s'ils veulent mettre leur enfant à l'internat de Diolfi à Beauvallon, donc de Beauvallon à Diolfi plutôt, et ben ils peuvent, c'est une bonne école. Bon, c'est un peu strict, mais normal. Mais après, voilà, quoi. Ils peuvent très bien.
Bernard Delpal, l'école de Beauvallon est créée par deux femmes, Marguerite Soubéran, dont l'action et le rayonnement sont prépondérants, et puis Catherine Kraft, co-directrice et compagne de Marguerite. Et à ce duo viendra s'ajouter un troisième personnage féminin, Simone Monnier, co-directrice à partir des années 40. Le fait que Beauvallon soit animé par des femmes, ça change quoi selon vous par rapport à la notion d'enfermement qui nous intéresse, ou plutôt de non-enfermement ?
Oui, effectivement, votre question peut être un peu déconcertante, mais en même temps, vous m'obligez à réfléchir à l'histoire même. La direction par trois femmes n'est pas une originalité de Beauvallon. C'est une situation que Marguerite a rencontrée dans plusieurs écoles nouvelles de la Suisse romande, disons entre Genève et Lausanne. Donc, une trilogie féminine. Alors, évidemment, c'est une trilogie féminine qui, dans la Suisse romande, déjà est une nouveauté. C'est quelque chose qui intrigue beaucoup. Mais ici, encore davantage, où on est plutôt dans un modèle très masculin, très viril, un peu machiste sur les bords, il faut le dire. Et le fait que ça soit trois femmes qui dirigent est quelque chose d'étonnant en soi. Et quoi qu'elles fassent, il y a toujours un moment où on s'étonne. Par exemple, quand elles bâtissent une piscine en même temps que l'école, et les deux sexes se baignent ensemble. On me dit, mais... Et alors, ce qui est curieux, c'est que je m'attendais, en épluchant un peu les archives, les réactions des années 30-35, je m'attendais à ce que ça provoque d'un tollé. Eh bien, non. Ce qui est très étonnant, c'est que leur force, à toutes les trois, c'est qu'elles s'appuient sur une éducation protestante calviniste, libérale, autocritique, et que ça leur attire indiscutablement le soutien des milieux protestants tournés vers l'éducation. Et ça, ça a été une force considérable. Ça leur a permis de défier la morale, parce que on sait bien que ce duo puis ce trio a des connotations sexuelles homosexuelles. Hein, ça, mais
elle l'assume.
Elle l'assume pleinement, jamais avec de la provocation. C'est jamais étalé. C'est toujours d'une extrême discrétion. Mais quand on interroge les très anciens élèves, ils le savent, ils le savaient. Mais ça n'a jamais été un objet de scandale, et je dirais que c'est rentré dans une construction, dans un ensemble qui est valorisé par les milieux culturels protestants. Ça, c'est très très net.
Et le côté alors non enfermé des enfants dans cette école, est-ce que ça a à voir avec le fait que les femmes soient à l'origine du projet et l'animent, ou pas forcément, selon vous ?
Alors, je ne voudrais pas faire du sexisme à l'envers. Si l'école est sans mur, c'est pas tellement parce que c'est trois femmes qui dirigent cette communauté et cette école, mais je dirais que c'est parce que c'est trois fondatrices ou directrices qui sont imprégnées de principes inconciliables avec l'enfermement.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, si on avance dans l'histoire de Beauvallon, l'école est un extraordinaire lieu d'accueil de réfugiés juifs, non-juifs, anti-nazis allemands, intellectuels opposants à Vichy, des communistes, des résistants de toute sensibilité. Est-ce que, selon vous, l'absence de mur d'enceinte et le caractère très ouvert de l'école pour les élèves peut expliquer cette ouverture au monde ?
Oui. Aujourd'hui, par exemple, où nous sommes souvent dans des zones d'insécurité, on renforce les contrôles à l'école. Le président de notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, s'était fait fort de mettre des portiques à l'entrée de tous les lycées. Donc ça veut dire une clôture, ça veut dire un passage hyper contrôlé, etc. L'idée, c'est qu'il faut protéger l'école de la violence extérieure. Mais pour les enfants qui rentrent dans l'école, c'est pas comme ça qu'ils la ressentent. Ils la ressentent comme une prison. Dans tous les cas, ça les coupe de l'extérieur. Et on tourne le dos à la vocation de l'école. Puisque l'école, et ça, je pense à Ferrières et à ses 30 points, l'école, c'est un lieu de socialisation. C'est là où on apprend à être un citoyen et plus tard à gérer les affaires de la cité, en commençant par gérer celles de sa communauté. Là, il y a une continuité dans l'apprentissage. Eh bien, c'est un non-sens pour Beauvallon d'être coupé de l'extérieur quel que soit un mur, une clôture, une pancarte. Non, au contraire.
Une dernière question, Bernard Delpalle. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'école va intégrer par étapes les systèmes d'éducation et de santé de l'État français. Le projet de départ, la philosophie de l'école de Beauvallon, est-ce qu'ils ont été préservés? Et selon vous, quelle est l'originalité de cette école aujourd'hui?
Oui, alors, effectivement, en 45, l'école ferme, elle est à bout de souffle, elle n'a plus de ressources, tout simplement, parce que, je dirais, elle a vécu au-dessus de ses moyens. Elle était conçue pour une trentaine d'élèves, il y en avait plus de 100, il y avait tout le monde adulte, des gens qui étaient à bout de ressources. Il n'est pas surprenant que cette école soit à bout de souffle, à bout de ressources, après la libération. Mais elle se reconstitue, Marguerite Soubéran est toujours là, et elle joue la carte institutionnelle d'État, c'est-à-dire que on va alors dire différentes formules, institut médico-psychopédagogique, ITEP, peu importe, l'idée est toujours la même, c'est que l'école s'inscrit dans une mouvance qui est partagée entre la santé, la justice et l'éducation, entre les trois ministères, pour des enfants qui ne trouvent leur place nulle part. Et en ce sens, il y a une fidélité au principe d'origine, et cette fidélité, elle a été consolidée quand Manuel Muñoz est devenu président de l'école dans les années 75 jusqu'aux 90 ans d'école, c'est-à-dire jusqu'à 2019 puisqu'il a cessé ses fonctions. Et il a été extrêmement attentif quand il est arrivé, quand il a rencontré Marguerite Soubéran pour la première fois. Les souvenirs du premier temps de l'école étaient très vivaces encore. Et il est arrivé aux responsabilités avec en mémoire tout ce que l'école avait chargé, hein, pour reprendre un terme d'Internet, tout ce qui était rentré dans son disque dur, et il a été très attentif à le sauvegarder, si bien que, au-delà des aléas, des mutations socioculturelles, etc., l'école est restée fidèle à ses principes, et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, la direction de l'école, lorsqu'elle accueille une nouvelle génération, hein, un nouveau flux d'élèves, puisque en gros, il reste 3 à 4 ans, donc il y a un renouvellement par quart ou par tiers. Eh bien, l'imprégnation des élèves à leur arrivée fait une large part à l'histoire de l'institution et de ses fondatrices. Et les enfants, qui ne sont bien nulle part, tout d'un coup se disent « mais je rentre dans une sorte de famille et je vais y trouver ma place ».
Qu'est-ce qu'on a devant nous là, Patrick Savoie ?
Alors on a une fresque qui a été réalisée à l'occasion des 90 ans de l'école, et cette fresque représente l'histoire de notre maison et les différents projets. Donc sur la gauche on voit le portrait des deux fondatrices, là, Marguerite Soubéran et Catherine Kraft, et ensuite le premier bâtiment que l'on voit, c'est la création de la grande maison, en tout cas c'est de là que tout est parti.
C'est celle-ci là qui a notre gauche.
On est devant la grande maison. Ensuite, symboliquement, il y a l'arrivée de... On parle souvent des trois fées, mais les trois fées ont été rejointes, donc les deux fondatrices, par Simone Monnier, donc en 36. Symboliquement, toujours, on les voit installées à côté de la piscine, parce que dans le projet de l'école, la piscine a été réalisée dès les premiers jours. Hein, ce côté apportait aussi du plaisir aux enfants dans une école. Enfin, c'est aussi... on a parlé de beaucoup de choses extraordinaires, mais la piscine dans une école, c'est pas très courant non plus. C'est aussi un espace de liberté supplémentaire. 2008, là, on continue de dérouler cette fresque. En 2008, ça a été le rachat, en quelque sorte, c'est un retour aux sources, parce que c'est le rachat de l'ancienne clinique de Beauvallon, qui était avant même une pension de famille. Et pour l'histoire, c'est dans cette maison que Marguerite Soubéran et Catherine Kraft avaient accueilli la première classe, le premier groupe d'élèves, avant de lancer la construction, les grands travaux de l'école. Et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir donc 70 élèves sur un même site, mais avec deux maisons. Donc du coup, 30-35 élèves de chaque côté, ce qui rend les conditions d'accueil en internat plutôt très confortables. 2014, on s'est adapté un petit peu aux besoins de notre société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'internat ne correspond plus dans toutes les situations. Donc on a aussi aujourd'hui une prise en charge simplement à la journée. Elle se fait à partir de locaux qu'on a sur Montélimar pour cette maison qu'on appelle la Villa, avec deux services, c'est ça, des semi-internats. La fresque ensuite reste vierge, j'ai encore de la place pour d'autres projets. Et il y a d'autres projets qui se mettent en place puisque nous sommes en train d'acquérir sur la Bégude de Mazin une maison qui nous permettra de monter un lieu de vie, c'est-à-dire de prendre en charge des enfants 365 jours par an. Voilà. Donc pour des enfants qui seront à la fois en internat et à la fois qui bénéficient d'une mesure de placement. Donc ils pourront être chez nous toute l'année.
Alors Patrick Savoie, cette fresque, elle est en noir et blanc, elle se développe comme ça à plat. Évidemment, vous y avez concentré les bâtiments les plus importants, les plus symboliquement intéressants aussi pour jalonner l'histoire. Il n'y a pas de mur, on voit les collines derrière, la nature devant et des enfants en couleur qui s'ébattent librement.
Alors c'est un peu la particularité de notre établissement. Alors je reviens quand même sur le côté noir et blanc. L'artiste c'est Nkimo Chrétien qui a réalisé également la fresque du potier là quand on arrive sur Djolfi. Donc c'est un peu sur les mêmes tons et c'était choisi. Il y a la fresque qui est en noir et blanc mais on voit que la vie apparaît en couleur dans cette école au travers d'enfants qui sont en mouvement et représentés dans différentes situations. On voit bien sûr qu'ils jouent au foot, qu'ils font du vélo, qu'ils font de l'aïkido, qu'ils font du monocycle, de l'équitation, du ski, etc. Donc la vie est en couleur au milieu de tout ça. Et effectivement il n'y a pas de limite physique, pas de barrière, pas de mur, etc. Il y a des règles qui rappellent aux enfants qu'ils doivent rester sous notre surveillance, mais il n'y a pas de limite physique.
Top. On fait une pause de minutes. Vous faites une petite pause de minutes.
On va passer sur le journal.
Non, c'est une radio.
On va passer sur la radio ?
Peut-être.
On va passer sur la radio ?
Asseyez-vous, on va vous expliquer.
On va parler sur la radio.
Alvin.
Sur quelle radio, monsieur ?
Attends, mais justement, tu t'installes et on va t'expliquer. Prends ta chaise.
Alvin, tout à l'heure, quand je me suis présenté, j'ai expliqué que notre radio, ici l'ombre, elle allait réfléchir à l'enfermement. Et tu m'as demandé ce que ça voulait dire. Je t'ai dit, ben, c'est des lieux où on est privé de liberté, comme par exemple la prison. Tu connais la prison ? Qu'est-ce que t'en connais, toi ?
Il y a des gardiens. Ils protègent les bas qui s'enfuient pas des fois. Mais aussi, ils ont le droit de sortir, je pense. Je sais pas moi.
Tu la reconnais comment, la prison ?
Parce que mon père, il y allait en prison.
Et il t'en a parlé ou ?
Non, parce que ça fait 4 ans et demi que je le vois plus. Du coup, il m'en parle pas. Voilà.
Mais toi, tu penses qu'il pouvait sortir de temps en temps ou quand il y était, non ?
Je sais pas ça, par contre. Je sais pas. Voilà.
Est-ce que c'est un endroit qui te fait peur ?
Oui, j'ai peur d'y aller, moi, en prison. Parce que c'est dangereux.
En fait, le papa de Samy et le tonton de Samy et le papa d'Adam, eh ben, ils sont en prison.
C'est des membres de ta famille ?
Non.
Des amis ?
Oui. Ils me l'ont dit.
Ils en disent quoi de ce lieu ?
Oui, ils en disent qu'ils sont un peu tristes qu'ils soient en prison.
Lucas, ça représente quoi pour toi, un endroit comme ça où on est enfermé ?
La malédiction, de la tristesse et du dégoût. Et voilà.
Et ici, alors ?
Ici, c'est pas une prison, c'est un endroit génial. Comme chez moi, dans ma famille d'accueil.
Ils sont libres.
Oui.
Tu te présentes ?
Je m'appelle Cooper Cordé.
Et t'es en train de faire quoi, là ?
De composer ma musique Pokémon pour le piano.
Une musique Pokémon, c'est-à-dire ?
Oh, c'est une musique qu'on fait sur le piano avec Pokémon.
C'est l'hymne des Pokémon ?
On peut dire ça.
La musique, c'est important pour toi ici ?
Bof.
Bof. C'est quoi la discipline, le domaine où tu t'éclates vraiment ?
Moi, c'est le badminton et les Pokémon. C'est les trucs que je peux vraiment pas m'en passer. Et géométrie aussi. J'adore.
En géométrie, il y a beaucoup de... C'est une discipline où il y a beaucoup de règles, en fait.
Je suis d'accord, oui.
Tu pourrais me parler des règles de Beauvallon ?
Oh, les règles de Beauvallon, il y en a extrêmement beaucoup. Mais je pourrais pas les expliquer. Je suis pas capable de toutes les dire comme ça. Ça prendrait trop longtemps.
Bon, les principales, disons.
Pas sortir des limites si on est trois... sinon on est 3 jours. Et on est couché le soir à 5 heures. On est à la main tout le temps. Pendant 3 jours.
Ça t'est arrivé ?
Ça m'est arrivé au moins 6 fois à ma première année.
Parce que là, t'es à Beauvallon depuis combien de temps ?
3 ans, j'attaque ma 4e année.
D'accord, donc il y a longtemps que t'as pas été à la main ?
Ouh, là, ça fait longtemps. Ça commence à faire extrêmement longtemps.
Mais t'en as des souvenirs quand même.
J'étais couchée le soir, éteint sans livre. J'étais tout le temps à la main, je m'ennuyais. Et en permanence, sans que les éducs se rendent compte, je jouais par terre avec les petits trucs de sable.
Et c'est une période où t'as réfléchi à ta faute ou oui. Pas vraiment, où t'étais plutôt énervée?
J'étais plutôt énervée. Mais en même temps, je réfléchissais. Je disais, mais j'ai pas fait de faute du tout. Je me disais comme ça. Parce que des fois, je lâche pas l'affaire, je mords l'hameçon, je le croque, je le lâche pas. Et ça reste comme ça.
Finalement, ça t'a permis d'avancer ?
Oui, parce que j'ai pas envie de jeter des cailloux, parce que je sais que je vais être à la main et que je vais être privé de jeu. Et j'aime aller jouer dehors, moi. J'aime la nature, j'aime tout ça, moi. Bon, les règles sur le groupe, faut pas crier à table quand on est à table. Et ils nous laissent 3 chances. Et si à la 3e chance on continue à crier, ils nous mettent 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, juste que ça fasse 1 heure et tout, en termes de honnêteté, quoi.
Oui, c'est vrai.
Aline, n'en rajoute pas.
Pourquoi ?
Arrête, pourquoi ? C'est pas toi qui questionne.
Bon, ça, c'est une règle, d'accord ? Pas crier à table. Une autre ?
Dans le groupe, faut pas trop faire de bêtises. Et faut pas faire d'échange sans l'accord de l'adulte pour des objets ou donner sans l'accord de l'adulte. Donner ou échanger. Et sinon, on se fait prendre les cartes Pokémon ou les billes ou tous les objets qu'on a, nos objets personnels. Pas notre savon, pas des trucs comme ça, sinon ce serait abusé. Faut que ce soit logique. Du coup, voilà, ça fait des choses comme ça. Et qu'après, ils nous les rendent, mais c'est les éducateurs qui décident dès qu'ils nous les rendent.
Ok. Tu participes, toi, aux assemblées tu interviens dans les assemblées hebdomadaires, chaque semaine ?
Non, je trouve que c'est ennuyant. C'est ennuyant à mourir, les assemblées, je trouve.
Quels sont les moments dans la semaine que tu apprécies le plus ?
C'est les moments de jeu et là où on va à la piscine, le mercredi et le vendredi. Surtout le vendredi parce qu'on rentre chez nous. Et du coup, j'ai trop hâte de ce vendredi. Au moins, je pourrais rentrer chez moi et chez moi, j'ai un colis de cartes. Donc, je serais trop content un gros booster de VV Max.
Donc, il y a des cartes Pokémon qui t'attendent chaque fin de semaine.
Oui.
Oh, arrêtez-vous !
C'est lui, hein ? C'est pas moi, là.
Merci.
Voilà. Merci. Et j'ai 10 ans et demi.
Et moi, j'ai 11 ans et demi.
Adieu, le public.